Le projet que nous portons, c'est aussi un projet pour la ruralité, un projet pour toutes nos campagnes.
La première chose que je dénonce, c'est qu'on abandonne les territoires.
Il y a une révolte au départ des Gilets jaunes contre l'écologie punitive.
Les espèces de Parisiens là, qui font 7 minutes de vélo par jour, ils ont l'impression de faire repousser la forêt amazonienne.
Il ne peut pas y avoir de pensée écologique sans une pensée sociale, qui est une pensée fondamentalement axée sur la mise en commun des ressources.
Vous ne pouvez pas continuer à exploiter au même rythme, même à croissance zéro, des ressources qui sont limitées, sans arriver à l'effondrement.
Aujourd'hui, nous embarquons à Lagrolet du Gers, un village dont le centre-bourg est perché sur une colline et entouré de vignobles. En arrivant sur la place du village, on ne peut que s'étonner de la présence d'un château d'eau entièrement recouvert d'une fresque artistique et qui sert maintenant de chambre d'hôte gérée par la commune. Ce projet original, c'est l'un des premiers initiés par le maire, Nicolas Mélier.
Alors bonjour, Nicolas Mélier, donc je suis originaire de Lagrolet, je suis né à Lagrolet. Je suis élu depuis une trentaine d'années, maire depuis une vingtaine. Je suis agriculteur à l'agriculture biologique sur la commune de Lagrolet. Je me suis d'abord engagé avec M. Haché, qui a été maire pendant de nombreuses années à Lagrolet, pour compléter sa liste. J'avais 25 ans à l'époque. Et plus tard, j'ai souhaité me présenter pour dynamiser la commune. Je pensais qu'il ne se passait pas assez de choses sur ma commune et je pensais qu'on pouvait, malgré que ce soit une petite commune, faire beaucoup de choses. Donc j'ai voulu essayer de prouver ça.
La commune de Lagrolet a connu pendant très longtemps une décroissance démographique liée à l'exode rural. Mais depuis le début des années 2000 et l'arrivée de son nouveau maire, la population du village a doublé et 650 personnes vivent aujourd'hui sur la commune, ce qui a permis de conserver l'école communale menacée de fermeture. Ce regain de population peut être attribué à l'engagement du maire et à son programme ambitieux qui vise à favoriser la qualité de vie et le bien-être sur le territoire.
Il y a deux choses. Il y a la perte démographique qui est générale ici, parce qu'on est un département rural. Et après, effectivement, la perte de dynamisme. La perte de dynamisme, j'allais dire, il y a une perte où il y a un changement de dynamisme. Donc, effectivement, aujourd'hui, naturellement, on perd du dynamisme dans nos communes parce qu'on n'a pas les loisirs, on n'a pas les services auxquels aspirent les nouvelles générations. Donc, naturellement, on peut faire ce qu'on veut, on n'aura jamais. On ne sera jamais concurrentiel avec les grosses villes. Donc ça c'est inévitable. Par contre, est-ce qu'on ne peut pas construire un dynamisme différent, qui est peut-être moins axé sur les petites communes, sur la jeunesse, peut-être un peu plus sur les adultes et les seniors. À nous de redéfinir un peu comment on rend nos communes attrayantes et pour quel public. Notre commune, il faut qu'elle reste petite, il faut qu'elle reste rurale. Mais qu'elle se démarque en termes de qualité, quoi. Voilà. C'est ne pas oublier la qualité en tout ce qu'on fait, quoi. Et la qualité, c'est pas forcément, et des fois même c'est le contraire, synonyme de dépenses d'argent, quoi. Et l'authenticité. Donc pour moi, la qualité, c'est plusieurs choses. Et, c'est énormément de choses, mais j'allais dire, c'est une qualité architecturale, c'est une qualité environnementale, c'est une qualité. Ce qui est un peu l'image du département culinaire. Donc ça suppose de bons plats et avec des produits qui sont bons. Enfin, pour moi, c'est bio, mais ce n'est pas forcément que bio. Mais déjà, pour moi, c'est la référence, c'est aujourd'hui le bio pour pouvoir garantir la qualité. Je parle particulièrement à nos enfants de l'école, c'est une cuisine à partir de produits bio. Je peux vous dire que l'employé communal qui produit les légumes est beaucoup plus valorisé que moi. Quand il porte son panier de légumes aux enfants à l'école, il retrouve du sens dans ce qu'il fait, quoi. Je trouve qu'il est valorisé, c'est beaucoup plus intéressant pour lui que ramasser les feuilles, quoi. Même s'il faut qu'il en ramasse quelques-unes, quand même. Voilà, c'est quand même aussi de redonner du sens au ce qui se passe, quoi. Après, quand vous avez la cantinière, qui d'habitude, les cantinières à Lagrolet ne travaillaient pas juillet-août, cette année, elle a fait 10 heures par jour, juillet-août, parce qu'on a ramassé les légumes, on les a pelés, on les a surgelés, on les a On les a mis en coulis, en gazpacho, et on a rempli les conserves, les étagères, on a rempli les légumes pour l'hiver, quoi. Donc c'est notre métier, quoi.
Donc je m'appelle Sébastien, donc j'habite à La Grolette, je suis juste à côté. Je suis de La Grolette depuis il n'y a pas longtemps, ça fait un an. Donc avant j'habitais à côté, dans un village à côté. Et je travaille ici donc depuis un an aussi, depuis septembre 2018. Et je suis cantonnier, chauffeur de bus et maintenant en plus jardinier pour la commune afin de récolter des légumes pour la cantine donc, de l'école. Quoi. Voilà.
Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez fait avant ?
Non, pas du tout. Non, j'avais jamais fait. Donc voilà, c'est une expérience et toute nouvelle expérience. Je pars de zéro en fait. Donc je connaissais pas grand chose au jardinage quoi. Donc oui, après je suis revenu là, la tête pleine et voilà quoi. Maintenant il faut que j'arrive à faire un tri, à bien tout remettre tout dans l'ordre là et puis essayer de bien partir. Du bon pied, qu'on va dire.
Et ça vous plaît ?
Oui, non, oui, c'est bien. Oui, ça me plaît beaucoup en fait. L'idée, c'est déjà de voir ce qu'on fait, quoi. C'est que à partir de la semence jusqu'à la fin, on voit qu'on fait quelque chose. On a plaisir à voir qu'on fait que les légumes poussent, donc on fait, ça produit, quoi. On fait quelque chose qui marche bien quoi. Donc, on a déjà commencé un peu l'an dernier, mais comme l'an dernier c'était un peu un test on va dire, parce que c'était la première année. Mais cette année on a prévu justement de faire plusieurs semis avec les enfants justement, de les faire participer du début de la semence jusqu'à la récolte quoi. Voilà. Donc normalement on commence fin novembre. On a déjà planifié avec les maîtresses de commencer des semis fin novembre avec les enfants quoi.
À la cantine. Alors la cantine, c'est vrai que...
Robert est un nouvel habitant de La Grolée. Il s'est installé dans les lotissements dédiés aux personnes âgées.
Ça m'a surpris au début d'être tous les jours en train de vouloir faire la cuisine quand je suis arrivé ici. Et j'ai rencontré Denise, la cantinière, qui m'a dit, et Nicolas aussi m'en avait parlé un peu, m'a dit, tu pourras manger à la cantine avec les gosses. Hop, j'ai dit, impeccable. Et ça fait que je connais tous les enfants du village, mais je ne connais aucun parent. Alors, on est au courant de tout ce qui se passe dans les familles. Voilà. Et alors, c'est intéressant parce que à travers les histoires des enfants, on revit un peu la sienne, celle de leurs parents, celle de leurs grands-parents. Parce que j'ai constaté quand même que par ici, les grands-parents, il y avait beaucoup d'enfants qui avaient leurs grands-parents très proches de leur domicile ou de leur ferme ou des machins comme ça. Les familles sont assez regroupées. Et donc, et ça c'est un bien. Hein. Quand les enfants vous parlent de leur grand-père, ça fait plaisir.
Aujourd'hui, l'objectif, vous voyez, depuis quelques années, c'est de créer du service, mais du service réaliste pour ma commune. Quoi. On ne va pas ouvrir une épicerie, on ne va pas ouvrir une boucherie, on ne va pas ouvrir... Il y a des communes voisines, 1000 habitants qui l'ont. Il ne faut pas non plus... Voilà, qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Là, tu reprends la Grolée. Voilà. C'était des communes de 3000 habitants, tu disais, c'est pas possible, on l'a fait 600. Est-ce qu'on va créer... du sens autour de ça, du mouvement autour de ça, peut-être du séminaire dans quelques temps, je ne sais pas. Voilà, on va travailler autour de ça. Cette maison, là, quand on a fini la salle des fêtes, il y a un an et demi, au mois de mai l'année dernière, donc mai 2018, on avait cette maison qui était plus ou moins en ruine et qui était habitée par un locataire. Et le locataire s'en va, parce qu'il a vu que ça bougeait un peu autour de lui, s'en va. Il ne savait pas trop ce qu'on allait faire de cette maison, de cette maison, parce qu'elle était placée devant la salle des fêtes, entre le gîte et la mairie. Donc, compliqué d'y faire un hébergement. S'il y a du bruit, des fois, la salle est faite. Et j'avais pas l'idée. Et c'est une technicienne de l'intercommunalité qui était venue pour une réunion qui m'a donné l'idée. Mais c'est pas l'idée qui m'a plu, c'est la façon dont on l'a présentée, qui rejoint votre question. C'était de dire, avec l'image que vous avez donnée de la Gaulée, vous devriez faire une maison de médecine douce. Donc, médecine, quand elle m'a dit ça, déjà, j'ai dit, là, c'est pas gagné. L'idée, on va carrer du chemin. Mais par contre, ce qui m'a motivé, c'est la façon dont on l'a présentée, que ça avait du sens par rapport à ce qu'on avait déjà fait. Ouais, ça, d'abord, ça apporte du service, hein, parce que avoir du service, même si aujourd'hui on n'a pas de médecin généraliste, ça paraît utopiste pour nous, même si on y rêve quand même et on ne ferme pas la porte, mais ça peut venir que de second temps. Mais ça apporte du service. On a déjà les infirmières à plein temps, donc à partir de là, les infirmières à plein temps, pour un village comme le nôtre, pour les gens qui habitent, c'est déjà très, très positif. Et l'idée, c'était de créer... un lieu où des gens se rencontrent, où des gens échangent. Je me suis aperçu lors des prochaines premières réunions de praticiens qu'il y avait plein de praticiens qui venaient. Certains qui venaient de la même commune à côté, une commune de 3 000 habitants, ils ne se connaissaient pas. Ils n'avaient jamais discuté entre eux. Et dans ces médecines entre parallèles, on y parle de médecine parallèle ou médecine douce et tout ça, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de science infuse et de métier qui règle tous les problèmes. Souvent, on a besoin de plusieurs professions et le fait que les gens discutent entre eux de leur pratique et de leur clientèle, ça peut amener aussi du service pour les gens. Donc aujourd'hui, là, l'idée, c'est que ces gens se retrouvent. On a 11 praticiens quand même qui commencent, qui échangent entre eux, qui vont pouvoir... voilà, ça sera un naturopole, un lieu d'échange aussi entre les praticiens qui va permettre de faire avancer. Quoi.
Enfin ça, je peux rêver, dire « Ouais, j'aurais bien que plein de médecins viennent s'installer, mais ça n'arrivera pas. »
Marion Sarlet, agricultrice en hydroponie à la Grolée.
Il faut rester un peu réaliste. On n'a pas la main là-dessus. Le naturopole, c'est génial, c'est extraordinaire. Ah, ça, c'est super. Mon unique point négatif par rapport au fait de venir à la campagne, c'est que c'est un désert médical. Jusque-là, je ne l'avais pas vu, mais depuis que j'ai des enfants et qu'on a eu des problèmes médicaux et qu'on est obligé de faire des fois, souvent, même nous, on va jusqu'à Toulouse pour ses soins. Donc 2 heures de route pour avoir 15 minutes de rendez-vous. 2 heures aller, 2 heures retour. Hein. Je me dis, plus il y a de médecins vers ici, plus il y a des gens qui vont s'installer et plus il y aura de médecins. C'est un cercle vertueux. Donc c'est super. On les a sous la main, puis ça fait de la vie dans le village. C'est extra. Enfin, surtout, moi, j'ai une voiture, j'ai des moyens de transport, mais il y a quand même pas mal de gens ici qui conduisent pas. Et au village, pour les personnes âgées, avoir une infirmière à côté, c'est du luxe. Prof de yoga et tout, c'est quand même trop bien. Acupuncture, moi, j'ai jamais fait, mais justement, je m'étais dit, il faudrait que j'en fasse. Mais bon, il faut aller à Toulouse. Et là, je vais y aller à côté de la maison. Non, c'est du luxe. Je pense que c'est chouette. Et puis, ça colle avec tout le reste de la dynamique du village. Ça va forcément attirer des chouettes gens. Et donc, encore une fois, dans le cercle vertueux.
Alors, je suis arrivée à la Grolée parce que j'ai vu donc une annonce sur la dépêche.
Delphine Zanetin, naturopathe au naturopole de la Grolée.
Comme quoi, à la Grolée, il y allait y avoir une maison de médecine parallèle. Donc, j'ai téléphoné à monsieur le maire qui m'a invitée à venir le voir. Voilà. Donc, je suis venue sur le site. Je me suis rendu compte effectivement que la maison de santé avait bien avancé dans son projet. Étant déjà moi installée à Barbotan, en fait, j'ai choisi le naturopole pour élargir ma clientèle locale. Voilà. Donc, la Grolette, petit village très sympathique, avec un environnement superbe, parce que vous avez vu 360 degrés avec vue sur les Pyrénées, donc c'est quand même très agréable. La maison de santé en tant que telle, super bien équipée, tout en bio. Donc, je reconnais qu'on n'a pas beaucoup de maisons de santé dans le Gers. Et je dis bravo à monsieur le maire qui a fait un super investissement.
C'est vrai que le naturopole, géographiquement, se met vraiment au centre du village, donc au centre de cette commune engagée dans le bio.
Stéphane Chabrier est réflexologue. Il s'est récemment installé au naturopole de la Grolée.
Donc la symbolique est belle de l'avoir au centre comme ça. Pour en revenir vraiment à la structure elle-même, à l'édifice, lorsque je suis venu la première fois ici à la Grolée, quand que monsieur le maire m'a fait visiter le bâtiment, j'ai tout de suite été fasciné avant tout par son esprit consciencieux, sa volonté réelle d'avoir un bâtiment qui soit à la hauteur des exigences écologiques d'aujourd'hui. Et ça, c'était vraiment la première belle découverte en venant ici. J'avais un petit peu lu sur la Dépêche un article qui concernait le Naturopole, mais sans rentrer vraiment dans les détails de la structure elle-même. Et c'est vrai qu'en apprenant qu'il n'y avait pas de placo, mais du fermacell, qu'il n'y avait des gaines blindées pour protéger des ondes, qu'il y avait du lino qui était de recyclage du bois, tout un ensemble d'éléments comme ça qui m'ont vraiment touché, on peut dire touché, en tout cas extrêmement inspiré pour venir travailler ici. Et ensuite, l'ensemble de la commune où les choses vont un petit peu tous dans le même sens et il y a une volonté réelle d'aller dans un sens commun pour la commune et pour le bien-être de ses habitants. Au départ, bon, je suis à Cahors, j'ai encore quelques patients à Cahors. Ici, oui, bien sûr, c'est une difficulté parce que personne ne nous connaît. Donc, il faut se faire connaître. Hein, donc, on essaye de faire on va faire des journées portes ouvertes, c'est de faire des vidéos, de présenter un petit peu le travail et de donner confiance et envie à une population locale de venir et même d'essayer parce que voilà, n'importe qui peut venir et me dire j'ai envie d'essayer la réflexologie. Voilà, une petite séance de 20 minutes comme ça, ça peut être tout à fait envisageable sans débourser un sou, parce que c'est important aussi de le faire connaître, de faire connaître une pratique. Mais en revenant à la question, oui, faire une passionnelle, c'est très très difficile.
C'est l'heure de la rubrique Idées transversantes. Le but, zoomer sur une initiative inventive qui fait débat et qui mérite qu'on s'y penche. 7 minutes de présentation et 3 minutes de discussion. Aujourd'hui, on vous présente l'hydroponie des sourciers.
Donc moi, c'est Marion Sarlet et l'entreprise qu'on a montée avec mon mari, ça s'appelle Les Sourciers. Les Sourciers, c'est une petite ferme, toute petite, qui fait 600 mètres carrés, qui produit des plantes qui se mangent. Que des trucs comestibles, même si autour de vous, vous avez l'impression que ce n'est pas comestible. Tout se mange, donc on fait des légumes, là vous pouvez voir des tomates, des fleurs comestibles, qui se mangent toutes, des petites micro-pousses, et pas mal d'herbes aromatiques, surtout du basilic. Fanatisme pour le basilic. J'adore. Et on est arrivé ici en 2013, donc c'est un projet qui a déjà quelques années. Et on fait pousser des plantes qu'on vend à des chefs gastronomiques de la région. Ici, on est dans le Gers, donc c'est une région touristique et gastronomique. Il y a plein de super chefs et il n'y a pas de producteurs de plantes un peu rares. Alors l'hydroponie, c'est un grand mot. Parfois aussi, c'est un gros mot. Parce qu'en France, généralement, ce n'est pas très bien fait. Le concept, c'est juste de faire pousser les plantes dans l'eau, dans un substrat inerte qui flotte dans l'eau, et on rajoute la nourriture dans l'eau. Et en fait, souvent, la plupart des tomates qu'on va trouver dans le supermarché sont faites en hydroponie, parce que c'est beaucoup plus simple à gérer que l'eau. On maîtrise mieux, on va dire. Et après ça, il y a plusieurs façons de faire de l'hydroponie, tout comme en terre, il y a plusieurs façons de faire du maraîchage. On peut le faire très bien ou on peut le faire très moins bien. Et donc là, on est sur l'extrême bio de l'hydroponie, quoi. Donc on peut avoir le choix de mettre dans l'eau des nutriments minéraux ou des nutriments bio ou même des poissons qui font caca dans l'eau et c'est ça qui va nourrir les plantes. Après ça, on peut choisir de pulvériser des trucs sur les plantes ou pas, de faire du hors-saison en chauffant en mettant de la lumière ou pas. Donc ça, c'est plein de choix que font le maraîcher au moment de s'installer. Donc nous, c'est plutôt petite surface, ultra vivant, on change pas notre eau, on la relâche pas dans la nature, on est sur les mêmes eaux toute l'année. Il y a des petites bactéries dans le système qui décomposent les matières organiques pour libérer les ions, comme ça se passe dans la terre. Et puis on fait plein de variétés, vous voyez, il y a vraiment, c'est pas de la monoculture, c'est plein de variétés différentes, c'est de la polyculture, pour que les plantes elles s'entraident un peu, et puis parce que la monoculture c'est terriblement ennuyeux, pour moi en tant que maraîchère. Le substrat c'est ça, c'est ce qui soutient les plantes, ça c'est des billes d'argile, Donc ça, c'est de l'argile expansée. Donc l'argile, bon, c'est matière naturelle. Par contre, il n'y a pas de substrat parfait. Hein, celui-là, pour avoir cet petit effet pop-corn, il est monté à haute température, donc c'est un peu énergivore à produire quand même. L'avantage, c'est que ça, on le nettoie au soleil. On va dehors, on le met sur des tamis géants et on les fait sécher, on secoue, on les réutilise à l'infini. Alors l'eau, on n'a pas le droit d'utiliser l'eau de pluie. On a le droit en terme, on n'a pas le droit en hydroponie. Bon, la loi n'est pas très claire, mais apparemment, on n'a pas trop le droit parce que... En fait, on aurait le droit, mais il faudrait pouvoir prouver qu'à tout moment, elle est potable. Et en fait, on peut, pour le prouver, il faut faire des analyses fréquentes. Et en fait, ça coûte trop cher. Donc, on a des gros réservoirs d'eau de pluie là-bas, dehors, qui nous... On est passé devant tout à l'heure. Ils se fondent dans la nature tellement ils sont rouillés. Et en fait, on l'utilise pour toutes les planches en terre. Et pour là, on utilise de l'eau de ville. Après, on utilise très peu d'eau parce que c'est recyclé. Donc, l'eau, elle part de là, elle fait tout le tour, elle revient. Donc, au final, pour nous, au niveau des frais... on utilise 200 mètres cubes par an, donc ça fait 300 euros. C'est moins que dans ma maison, sachant que je ne prends pas de bain. donc non, ça ne fait pas beaucoup pour toute la ferme. Hein. Et au niveau de l'électricité, pareil, on a propre 300 euros à l'année. Donc on a des frais fixes qui sont très faibles, c'est pour ça qu'on arrive à en vivre. Au niveau des nutriments qu'on met dans l'eau, donc, je vous ai dit, trois manières de faire. Soit on ne met que du minéral. Ça, c'est du minéral. C'est ce qu'on appelle l'hydroponie conventionnelle. Soit on va rajouter du bio. C'est ce qu'on appelle la bioponie. Soit on ne met que des poissons qui font caca. Et c'est ce qu'on appelle l'aquaponie. Pour un peu les trois, en vulgarisant un max, les trois mots. Nous, on fait un peu des trois. On a fait des tests individuels. Quand on fait que du minéral, c'est de la bombe. Ça marche super bien. Au niveau du goût, c'est très bon. C'est très productif. Après ça, les matières minérales, c'est plus au niveau de certaines ressources qui peuvent être des ressources un peu limitées. Après, c'est minuscule ce qu'on utilise, mais le phosphore, on sait que c'est une ressource qui va être limitée. Alors c'est sûr, on peut se rassurer en se disant, bah là, ça circule dans l'eau jusqu'à ce que ce soit assimilé. C'est complètement différent que quand c'est dans les pleins champs où on le met et puis ensuite, bah, faudra en remettre l'année d'après et 60% est lessivé par les pluies. Ça reste quand même une ressource qui est limitée, donc même si on l'utilise moins... Bon, c'est un peu ce qui nous pose problème. Et ça, c'est fabriqué dans le Gers. En fait, tout est fabriqué dans le Gers. Se faire que de la bioponie, ce serait complicated. Donc, en fait, on fait un mix des deux. Et on a aussi des poissons dans le réservoir. Alors, faire que de l'aquaponie, pareil, il faudrait rajouter quelques minéraux parce que l'aquaponie, ça ne marche pas très bien non plus. Parce que les poissons ne font pas caca de fer. Dommage, et les plantes ont besoin de fer. Donc, voilà, on fait un peu les trois. Et les poissons, ils servent surtout à nous enchanter par leur présence, mais aussi à manger les larves de moustiques. Et au début, on s'était dit, bon, on va rester juste un an pour tester. Et on devait ensuite l'installer plutôt sur des zones arides ou polluées ou sur des toits, parce que c'est complètement débile de faire du hors-sol sur un sol qui n'est pas pollué. Et donc on s'est dit, bon, on teste pendant un an, on voit si ça marche, on l'installera là où ça fera plus de sens. Et en fait, on est trop bien ici, donc on n'a jamais voulu repartir. Donc, mais je le dis, c'est pas très logique. Après, je me rassure en me disant, en attendant, je forme des gens qui, eux, vont s'installer dans des endroits où cette technique, elle fait vraiment une différence. Parce que là, on n'a pas besoin de ça ici. Il y a la terre, enfin, quand on a de la terre, il faut servir de la terre. Mon discours, c'est plutôt ça. Ça, c'est trop bien pour quand on ne peut pas utiliser la terre. Et malheureusement, c'est quand même de plus en plus le cas. Parce qu'on a de plus en plus de demandes de formation. Et je le vois, c'est des gens qui viennent d'Afrique du Nord. Ils sont en galère à cause de l'eau. Des gens qui viennent des dom-tom. Ils sont en galère à cause du chlordécone et de tous les polluants qu'il y a dans la terre. Donc, ils ne peuvent rien faire pousser parce que c'est dégueu. Et les agriculteurs urbains, bon, eux, ils ne sont pas en galère, mais. C'est cool parce qu'ils font de la pédagogie autour des plantes en ville et c'est bien de parler de l'agriculture à tout le monde. De toute façon, il n'y aura jamais rien qui sera aussi bien que la pleine terre, hein, c'est sûr. C'est juste quand on cherche une alternative, c'est une des moins dégueux. C'est sûr que le changement climatique, ça va nous impacter, particulièrement sous serre, parce qu'on a des étés qui sont super chauds. Et ben, je garde les graines que des tomates qui ont survécu à l'été, et puis voilà. D'accord. J'espère qu'à la fin, je ne me retrouve pas avec une seule variété. Mais... On fera ce qu'on a toujours fait, c'est qu'on trouve les plantes qui sont adaptées au nouveau climat. C'est juste que contrôler le climat, franchement, c'est un truc qu'on a étudié sous tous les angles. On accompagne les projets qui se font en indoor où ils veulent le climat parfait. Dans tous les cas, on est perdant. Parce que même si on arrive à reproduire le climat idéal, à mettre de l'ombrage, à rajouter de la lumière, etc., la plante, elle va toujours sentir que ça a été modifié et en souffrir. Pour moi, on adapte les variétés. Après ça, les variétés, depuis toujours, elles ont cette force aussi de pouvoir s'adapter. Et le fait de pouvoir récupérer les graines année après année, les replanter, au fur et à mesure, elles vont peut-être nous suivre là-dessus. Et puis il y a des plantes qu'on arrêtera de faire, tout simplement, on se réadaptera. Au moins, on ne sera pas impacté par les problématiques de manque d'eau. Ça, il y a un peu d'évaporation, un peu d'évapotranspiration, mais disons qu'il n'y a rien qui part et qu'on ne peut pas récupérer.
Salut Maxime, salut Alexia. Alors, que pensez-vous de ce projet d'hydroponie ? Est-ce que vous trouvez que ça peut être une solution durable pour s'adapter au changement climatique et diminuer la dépendance de l'agriculture au pétrole et aux énergies fossiles ?
Alors, dans le cas des sourciers, je trouve que oui, parce que, donc, comme le disait Marion, c'est une technique d'agriculture qui utilise très peu d'eau pour la production des légumes. Et parce qu'eux réfléchissent aussi en termes le plus local possible, donc avec une production aussi d'engrais les plus bio et les plus locaux possibles, puisqu'ils viennent du Gers. Après, on sent aussi dans l'entretien que c'est en cours d'amélioration constant. Et aussi parce que dans son cas, c'est fait en serre non chauffée. Enfin, dans le cas des sourciers, les serres ne sont pas chauffées. Donc, c'est un mode d'agriculture qui est finalement peu intensif en énergie.
C'est vrai. Et moi, pour ma part, je note quand même quelques petits inconvénients. D'abord, c'est une démarche qui, en tant que telle, n'est pas très sobre en termes de consommation électrique, d'utilisation d'engrais chimiques. C'est aussi quelque chose d'assez énergivore pour la production des substrats. Il y a un autre souci que je peux peut-être pointer, c'est ce que ça implique en termes de standardisation de l'agriculture, puisqu'on a des procédés ici qui sont réplicables indépendamment de la terre sur laquelle on se trouve. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle une culture hors sol, et je trouve que c'est assez révélateur que ça s'appelle hors sol. En plus de ça, c'est assez technique, et on se retrouve une fois de plus dans une logique de maîtrise totale de la nature, qui peut-être poser quelques problèmes philosophiques. Après, c'est quand même une solution, parce qu'il y a beaucoup d'avantages, comme tu l'as dit, mais à mon avis, ça doit se cantonner aux situations où ça n'est pas possible de faire autrement, par exemple si le sol est de toute façon complètement infertile, et comme elle le dit dans l'entretien, rien ne vaut une culture en plein sol. Ensuite, mon dernier point, ce serait de dire qu'il faut distinguer l'hydroponie bio de l'hydroponie intensive, pour laquelle il y a beaucoup plus d'énergie qui est sollicitée et beaucoup plus d'intrants chimiques qui posent des problèmes environnementaux.
Ouais, du coup, on pourrait dire que c'est un type d'agriculture qui est très pertinent en milieu urbain, dans un cadre d'imperméabilisation des sols. Donc quand, de toute manière, les surfaces sont bétonnées et que rien ne pourrait pousser autrement. Et que dans ce cas-là, ça permet, donc en milieu urbain, ça permet une certaine relocalisation de la nourriture. Par exemple, si des aéroports qui occupent des hectares de terres qui ne peuvent plus être des terres agricoles, si ces aéroports cessent leur activité, on pourrait imaginer des installations hydroponiques dessus.
De retour à la Grolée, où ces initiatives ont porté leurs fruits et où de jeunes familles sont venues depuis s'installer. Pour accueillir ces nouveaux habitants, le maire a permis l'aménagement d'un lotissement à 5 km du centre-bourg, où logent aujourd'hui plus d'une centaine de personnes. À côté de ce nouveau lotissement, un ancien centre de vacances, Azureva, est resté en friche depuis plus d'une quinzaine d'années. La mairie en a maintenant fait l'acquisition et souhaite y développer des projets en cohérence avec la dynamique déjà à l'œuvre sur le territoire.
Mais ce centre, beaucoup de gens de la commune s'y retrouve parce que c'est un centre qui a été construit au départ par la mairie de la Grolée, des années 66-67. Beaucoup de jeunes ont appris à nager, ont fait la fête sur place. Beaucoup ont travaillé sur ce centre. Donc il y a quand même, pour les gens de la commune, il y a enfin, les gens qui, de ma génération, j'allais dire, il y a du sens parce que c'est quelque chose qu'on partageait beaucoup de personnes. Et bon, après, il a été vendu comme centre de vacances et il a été fermé en 2007. Il devait se vendre et continuer. Et puis la tempête Klaus a fait qu'il y a la moitié qui a été détruit. Et depuis, bon, il ne s'est pas vendu et il s'est mis en friche. Et aujourd'hui aussi, quand je vois que le travail finalement qu'on a réalisé depuis que je suis élu, depuis 20 ans, en termes d'image pour la commune, est en train de payer. Alors quand je pense à tout ça, je me dis, c'est bien le travail que tu as fait, ça commence à payer, mais il ne faudrait pas que quelqu'un te détruise tout ça. Le centre de vacances dont on parle, c'est 17 hectares sur la commune. Si un porteur de projet arrive et fait quelque chose qui ne correspond pas à l'image qu'on a voulu de la commune, on perd tout. Ça détruira l'image de la commune, ce serait irrémédiable. Donc nous, on ne pouvait pas trop acheter ça, faire des projets. On est une commune de 600 habitants, on n'a pas l'assise financière pour porter ce projet. On a eu la chance que j'ai une information qui me dise qu'il y a l'EPF, c'est un établissement public foncier de France qui est là pour aider les collectivités à porter financièrement du foncier, bâti ou non bâti. Donc l'EPF a accueilli favorablement notre projet. Donc l'EPF aujourd'hui achète Azureva. L'EPF porte cette acquisition foncière pendant 8 ans ainsi que les frais qui pourraient être générés pendant ces 8 ans. Ça nous laisse 8 ans à une bonne période puisqu'on arrive juste avant les élections, donc on va repartir sur un mandat dès le départ, pour réfléchir ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas sur ce terrain. Donc j'aurais pu bêtement aller chercher des porteurs de projets, mais j'allais me trouver dans le fait accompli d'un projet comme ils le veulent, et à prendre ou ne pas prendre. Donc je pense qu'il valait mieux, nous, en amont, réfléchir. Donc c'est pour ça qu'on a organisé ce séminaire samedi avec les localos, qui va nous permettre de dire ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, et comment on crée du lien avec le village, comment on donne du sens, et tout en aussi écoutant ce dont a besoin le territoire. Voilà, essayer de faire travailler les matières grises autour de ça, pour que quand j'aurai les porteurs de projets qui arrivent, j'ai déjà une fiche de route à leur faire lire avant d'aller plus loin dans la réflexion sur de futurs projets, quoi.
Comment réfléchir à ce nouveau projet ? Doit-il se situer en totale continuité avec l'action passée du maire ? Comment ouvrir à de nouvelles idées et inclure de nouveaux acteurs sans compromettre les efforts déjà fournis ? Quelle est la vocation du lieu ? Pour répondre à ces questions, le maire a donc organisé un séminaire auquel il a convié des acteurs locaux et a demandé à une association, les Localos, de venir orchestrer cette journée et d'apporter un regard extérieur sur le projet. Les Localos, c'est un collectif qui rassemble des professionnels chevronnés et passionnés par le développement local et qui en font un pilier de la transition écologique et sociale pour les territoires ruraux. Bref, on leur a trouvé beaucoup de points communs avec la traverse, l'expérience en plus. Ensemble et avec les autres participants, on a donc réfléchi à ce que pourrait devenir cette friche en répondant à plusieurs questions. Je laisse Jean-Yves Pinault, directeur des Localos, présenter le déroulé du séminaire.
L'idée, en fait, c'est qu'on vous propose à la fois de réfléchir, à la fois un peu de créativité et de la production, de façon à ce qu'à la fin de la journée, on puisse se dire « bah oui, effectivement, je pense que là, on a un beau projet et essayer de voir comment, en termes de méthode, on s'y met ». Donc, il y a trois grandes questions qui nous rassemblent aujourd'hui et qu'on va interroger et qui vont charpenter notre journée. La première, c'est essentiel, Nicolas, tu l'as dit, c'est ces 17 hectares-là, dans quoi ça s'inscrit, où est-ce que ça s'inscrit, dans quelle dynamique ça s'inscrit, et donc quelle vocation, quelle identité on peut donner à ce site de 17 hectares, encore une fois au regard de l'existant et encore une fois au regard des obligations que les contraintes d'aujourd'hui et que les enjeux très forts d'aujourd'hui nous imposent. Deuxième temps et deuxième question qui nous rassemble, c'est quelle gouvernance, comment on va s'y prendre, quelle méthode, comment on va s'y prendre, qui va s'y prendre pour conduire ce projet. Puis troisième élément, c'est évidemment, vous l'avez compris, un peu chronologique. Le troisième élément, c'est quelles fonctions, quelles activités, au sens plein du terme, on ne parle pas que de l'économie là, quelles fonctions, quels domaines d'activité peuvent être développés sur ce site qui permettrait, un, de répondre et d'illustrer concrètement la vocation qu'on veut donner, l'identité qu'on veut donner à ce site, et dans quelle mesure et dans quelle manière on développe ces fonctions, on développe ces domaines d'activité dans cette méthode et dans cette gouvernance qu'on aura réfléchi.
En amont de ce séminaire, nous avons interrogé différents acteurs locaux qui ont déjà un peu projeté leurs envies sur le site et qui attendent beaucoup du séminaire pour répondre à ces questions.
Nous, dans les sourciers, donc on a une entreprise de maraîchage, on a aussi une entreprise de formation, donc on voit beaucoup de porteurs de projets, des gens qui veulent faire des reconversions professionnelles ou des gens qui ont envie de faire des métiers qui ont du sens. Et ils viennent puiser à la campagne des idées pour appliquer chez eux ou même en ville. Et en fait, je trouve ça génial que pour une fois, ce ne soit pas les gens de la campagne qui vont en ville chercher les innovations, mais les gens de la ville qui viennent à la campagne pour aller chercher des innovations. Et je trouve ça super. Je pense qu'il faut encourager les ponts dans ces deux sens. Et quand ils viennent au village, tous ces ruraux qui viennent se former chez nous, donc on les loge au gîte du village, ils mangent à la cantine de l'école et ils font les formations avec nous. Et en plus de nous voir, souvent, ils restent quelques jours de plus dans le village. Ils veulent aller visiter les silos du maire. Ils veulent aller voir les gens qui ont mis des poules dans les vignes ou des moutons ou l'agroécologie. Ils sont fascinés, ils ne connaissent pas ça. Et donc, en fait, ça leur sert d'une grosse boîte à inspiration. Moi, j'imagine bien un grand centre de formation à la permaculture et à tout ce qu'il y a autour. Et que les gens viendraient se former, s'inspirer. Et au début, je m'étais dit, en fait, c'est quand même très loin des transports. Et ça peut être un point bloquant. Mais en fait, c'est bien parce que les gens, ça les oblige à se déconnecter complètement. Et c'est dans ces moments-là qu'ils sont les plus créatifs parce qu'ils sont dans la nature, ils sont loin de tout. Ils viennent pour plusieurs jours. Du coup, ils ne peuvent pas faire ça sur une demi-journée et en immersion totale. Et puis, évidemment, tout ça dans une économie circulaire. Donc, tu vois, par exemple, si un maraîcher en permaculture, après ça, on peut mettre quelqu'un qui fait de la transformation. Je sais que Nicolas, il réfléchit beaucoup sur le point de vue énergétique, là où moi je ne m'y connais pas beaucoup, mais là où certains ont besoin de froid, d'autres ont besoin de chaud, donc il y a peut-être des transferts à faire. Et ça pourrait être sympa aussi d'avoir des échanges intergénérationnels, parce que ça va sur les produits, mais ça va aussi sur l'humain. Et il y a beaucoup de gens ici, mais alors énormément de gens, qui ont des super connaissances. Là, je parle de transformation de légumes, et mon voisin, il fait son potager, il fait tous ses légumes, il fait tous ses bocaux. Ses enfants, ça ne l'intéresse pas, ils n'apprennent pas. Et moi, je me dis, le jour où il ne sera plus là, c'est des connaissances de dingue qui vont partir. Et je trouve ça dommage de pas pouvoir en profiter. Alors moi, j'essaye et tout, gratter l'amitié, d'aller voir comment il fait. Mais je me dis aussi bien, pour lui, ça peut être, pourquoi pas, un complément de revenu. Je le fais intervenir sur des formations, il nous explique comment il fait. Voilà, le gars, de toute façon, il déménagera pas, il n'ira pas donner des formations en ville. Mais les gens des villes, ça peut les intéresser de connaître ces techniques.
Je fais de la verrerie et je peux aussi faire de la formation verrière à partir du moment où j'ai le matériel qu'il faut.
Agnès Bunel, verrière au village de la Grolée.
Mais, et puis aussi, je fais partie de différentes associations, enfin, l'association des métiers d'art en Gascogne et aussi d'un collectif qui s'appelle Matière, où on vient de monter à Auch un showroom, et c'est des artisanes, parce que c'est que des filles ou presque, qui travaillent les matières des murs et des stucs, des enduits décoratifs, des enduits terre, des enduits chauds et des choses comme ça, de la mosaïque. Enfin voilà, on est plusieurs avec des matières différentes qui peuvent intéresser les gens quand ils rénovent leurs intérieurs ou leurs extérieurs. Et je ne suis pas là pour dire on va rénover les bâtiments là-bas parce que c'est pas de la vieille pierre non plus. Mais ça peut être intéressant pour des gens comme ça aussi de se former à des enduits terre, des enduits chauds, des enduits chanvre, des choses comme ça qui pourraient être... Ça peut être, à mon avis, un bel endroit pour accueillir des stagiaires dans différents domaines, alors que ça soit la rénovation, que ça soit la verrerie, que ça soit autre chose. Voilà. C'est pour ça que le séminaire, il est bien, que les idées vont fuser, j'espère, que justement, il y aura des profils qui seront tellement différents qu'il peut y avoir justement des choses auxquelles on n'avait pas pensé et qui vont se trouver là. Moi, je pensais à cette histoire de formation dont je vous ai parlé parce que enduit écolo, mais après, il peut y avoir plein d'autres choses. Je ne sais pas. Je vais voir à ce séminaire-là. Je suis dans l'expectative.
Que ce soit un truc original, quelque chose de... Peut-être quelque chose qui est dans le vent, tout écologique, avec des gens disciplinés, motivés, qui sont capables de vivre sans électricité, sans au chauffage au bois, aller se faire couper du bois ou des machines comme ça. Là, ce serait bien, parce que ça attirerait des gens différents et avec qui on pourrait discuter. Parce qu'il faut, c'est avec les gens différents qu'on discute, c'est pas avec les gens qui vous ressemblent qu'on discute.
Minou fait tes valises et les miennes aussi. Nous quittons l'île Saint-Louis pour le paradis. J'ai trouvé la maison dont nous rêvions tant. Pour trois fois rien à crédit sur deux ans. C'est au cœur du Larzac, au bord d'une rivière, dans un joli lieu dit appelé le désert. Un manoir du 16e dans un parc de 1000 hectares. Il y aura juste quelques travaux à prévoir. Pour l'arrivée d'eau, le vieux puits fera l'affaire. Pour l'électricité, vive les panneaux solaires. S'il y a des nuages, c'est toi qui pédale. S'il fait nuit plus d'une heure, c'est toi qui pédale. Le premier spot wifi est à 25 km. Le premier monop est à 35 km. Le premier iPhone est à 120 km. La dernière poste à fermer, elle est pas belle. La vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier lapin. Elle est pas belle. La vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier pingouin. Avec nos clapiers à lapin, les toilettes à compost, l'eau de pluie pour le bain. Si nos amis nous voyaient, ils n'en reviendraient pas. D'ailleurs, s'ils venaient, ils n'en reviendraient pas. Tout ce qui pousse ici est un vrai don de Dieu. Les ronces, les orties, les champignons vénéneux. On s'est même installé une petite distillerie. L'agneau de châtaigne, ça vaut tous les smoothies. Le premier voisin est à 25 km. Le premier village est à 35 km. Le premier magasin bio est à 120 km. La seule maternité à fermer, elle est pas belle. La vie pour le dernier des hippies, la main dans la main avec le dernier dauphin. Elle est pas belle. La vie pour le dernier des hippies, la main dans la main avec le dernier oursin. Penser au monde qu'on laisse à nos enfants. Mais là on est trop jeune et moi je veux pas crever. Trop loin d'un Starbucks ou d'un resto japonais. Minou fait tes valises et les miennes aussi. Nous quittons le Larzac pour le paradis. J'ai trouvé le loft dont tu rêvais tant. Au pied de Notre-Dame à crédit sur 100 ans. Le premier médecin était à 25 km. Le premier défibrillateur à 35 km. Le premier hôpital à 120 km. Le dernier cimetière était complet. Elle est pas belle. La vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier parisien. Elle est pas belle. La vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier terrien. Elle est pas belle. La vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier tibétain. Elle est pas belle. La vie pour le dernier des hippies. La main dans la main.
C'était les Fatal Picard, le retour à la terre.
La Groulée, c'est certifié territoire bio engagé. On est quand même pas mal sur le développement.
Tanguy Mélier, agriculteur bio et en biodynamie.
Sur l'écologie, sur tout ce qu'on peut faire, comme avec la cantine bio, enfin, essayer de faire avancer les choses sur ce dossier. Donc pour moi, il faut une suite logique à ça, quelque chose qui peut aider, je ne sais pas, des éco-bâtiments, ou je ne sais pas ce qu'on peut faire, ou une école qui peut aider un peu plus sur le développement durable, des projets qui vont faire avancer les choses, même politiquement, quoi, sur la durabilité. Quoi. Ici, comme ailleurs en France, on dit toujours que ce n'est pas possible. Tant qu'il n'y en a pas un qui l'a fait, personne n'ose essayer. Tant qu'il n'y en aura pas un qui ne montrera pas l'exemple, ça n'avancera pas. Quoi. Donc il faut une communauté moins pour montrer que c'est possible. Quoi. Les gens vont participer, ceux qui vont apporter comme idée nouvelle, et ouvrir les débats. Quoi. De toute façon, j'espère qu'il y aura des gens en contradiction pour faire avancer les débats. C'est toujours pareil, tant que si tout le monde est d'accord, on n'avance pas. S'il y a des gens un peu qui contredisent et qui donnent d'autres idées, ça peut faire avancer les débats et donner de nouvelles idées. Quoi.
Si on veut qu'un village vive aujourd'hui, il faut lui donner les moyens de vivre.
Véronique Elena est responsable d'une ferme équestre qu'elle gère en autoconsommation et où l'esprit de famille et la convivialité sont les maîtres mots.
Et il faut être un petit peu un précurseur de ce qui va arriver et anticiper surtout. Donc on ne peut pas se reposer sur nos acquis aujourd'hui, ce n'est pas possible. Le monde enfin, qui nous entoure, c'est un paradoxe pour tout. On est en proie à beaucoup de violence et beaucoup d'égoïsme aussi. Voilà, c'est l'époque où les gens étaient solidaires, se serraient les coudes, je crois qu'elle est révolue. Maintenant, il faut regarder dans la même direction et accompagner les gens pour qui on pense qu'ils regardent dans la bonne direction. Je pense sincèrement que si effectivement, d'abord en faire un lieu touristique et pour les saisonniers, je pense que c'est primordial pour apporter un petit peu du budget de la trésorerie pour la mairie. Mais en parallèle, effectivement, cette grande salle qui fait restauration et tout pourrait être utilisée à des fins liées à ce qui se passe dans les villages, des lotos, des manifestations l'hiver, des choses pour les retraités, pour les personnes âgées, des thés dansants. Enfin, je dis des choses, c'est peut-être bête ce que je dis, mais ça pourrait être au même titre que j'allais dire la salle des fêtes. Mais justement, comme c'est en dehors du village, peut-être que ça serait plus facile pour les personnes de s'y retrouver. Et surtout, ce que je voulais dire aussi, c'est les emplois que ça peut générer, cet établissement, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Donc, générer des emplois saisonniers, certes, mais il y aurait quand même des emplois à l'année parce qu'il faut quand même entretenir le site. Et je ne pense pas que les employés communaux puissent faire tout le travail tout seuls. Donc, voilà, donc sur le long terme, générer des emplois, générer des réunions, effectivement, un peu plus modernisées de village, mais peut-être rendre l'endroit accessible à tous.
Mais qu'est-ce que les localos ont bien pu trouver à répondre à toutes ces attentes? Lors des ateliers du séminaire, ils ont cogité pour trouver une vocation au lieu. Prenons un peu de recul et chaussons les lunettes du développement local pour aborder les problèmes d'aménagement du territoire, de qualité de vie et de ZAD. Dans l'ordre des interventions, Gérard, Florence, Bernard, puis Yassir.
C'est pas la peine que nous on se préoccupe de philosophie là, parce que en gros, c'est comment ça va se remplir, c'est grand. Il y a des tas, les usagers, tiens, ça peut être en santé caisse, ça peut être ça, tiens, pourquoi pas un atelier, et pourquoi pas n'importe quoi, donc voilà. Et donc après, c'est la quantité de vie, la qualité de ce qui se passe qui doit se coordonner avec l'existant. Et c'est ça le problème pour moi.
Je suis raccord avec toi dans le sens où la question n'est pas de la philosophie, la question est de se dire comment on repense globalement ce territoire et comment on y met de la vie dans ce territoire. Ouais. Il parle d'activité, il parle de produire, il parle d'économie symbiotique, en fait, avec la biodiversité, etc. Et qu'en fait, le centre-ville idéal et expérimental, il est là-bas. Quelque part, c'est peut-être cet endroit-là qui devient plus ou moins résidentiel et l'autre endroit qui devient le centre-ville.
Il me semble que la crainte, peut-être pas exprimée jusque-là, quoique, ce serait que ce lieu qui déjà a été squatté, deviennent à un moment donné une ZAD avec tout ce que les gens ont dans la mentalité, le regard, le machin. Donc tu as ça d'un côté, et il me semble avoir perçu plusieurs fois les propos du maire, et de l'autre côté, il y a un truc au milieu, hein, et de l'autre côté, cette tentation donc d'aménager en réponse à la ZAD. C'est-à-dire d'un côté, tu as la ZAD style Notre-Dame-des-Landes, de l'autre côté, tu as la ZAD d'aménagement différé, quoi, je dirais.
Quelque part, moi en tout cas je suis partie prenante d'une autre vision de l'aménagement du territoire depuis très longtemps, moi j'ai enlevé le A déjà. Et on est dans des formes de ménagement du territoire. Et donc c'est ça aussi qui fait la plus-value du lieu, c'est qu'on est dans une forme de soin apporté à soi et aux autres. Et bizarrement dans cette situation de tension, de risque de rupture, on pose la question de qu'est-ce qui fait continuité quoi. Et moi je pense sincèrement que cet endroit, je le vois bien effectivement comme un autre objet, mais avec un développement organique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas tout faire ici, on peut faire des choses là-bas, et finalement, de dire, c'est aussi une mise en mouvement. Et donc finalement, d'avoir une zone d'activité, transition, une ZAT de ce qu'on veut, quoi. Mais une zone d'activité, tout le monde en a, tout le monde rêve d'en avoir, sauf que celle-ci, elle est dédiée à l'avenir, elle est dédiée à l'expérimentation. Et on peut aussi penser qu'il y a un mode opératoire de dire aux gens, on accueille des gens qui sont en recherche, et de modèles et de postures. Et finalement, de faire en sorte que ce soit un laboratoire ouvert, et j'en termine là-dessus, c'est ce qu'on appelle les living labs, quoi. Un endroit qui s'étudie en faisant.
À la fin du séminaire, les localos proposent l'organisation d'une grande fête qui permettra la mise en mouvement des acteurs et la mise en place d'une gouvernance modulable. La question de la gouvernance, c'est un enjeu essentiel à la réalisation de projets. Elle définit les rôles des différents acteurs et les règles qui permettent leur collaboration pour mener à bien un projet. Je laisse Jean-Yves Pinault expliquer ce projet de gouvernance.
Il nous a semblé que il fallait se mettre en mouvement et de créer, en fait, une sorte de Big Bang. Une Big Bang qui lancerait, qui créerait cette étincelle, et ce Big Bang pourrait prendre la forme d'un festival, d'un moment très très fort qui aurait lieu sur place, amener, ce qui a été dit, de la vie dans, ou ramener de la vie dans cette zone, un festival qui pourrait s'appeler Les Friches et vous, par exemple, Les Friches et vous. Et ce festival, en fait, serait comme une sorte de moment où vous inviteriez les locaux à participer, qui amènerait des chevaux, qui amènerait du matériel de démonstration, qui construirait une buvette, dans du temporaire, qui pourrait prendre sur une semaine, et où vous inviteriez, en fait, des gens de toute la France venir participer à des conférences, à du... Mais à partir de ce moment-là, il y a des gens, il y a de la vie, ils se fabriquent des choses sur sur la zone, sur le territoire, sur la zone et donc sur le territoire. Et cette idée de fête va vous permettre de lancer, d'agréger, de réfléchir, de tester et au fur et à mesure en fait de la démarche, de pouvoir mieux anglais, de pouvoir mieux spécifier, de pouvoir mieux accompagner des projets qui auront le temps en fait de se construire avec les besoins du coin, qu'on soit porteur de projet du territoire ou porteur de projet de Lille ou de Roubaix ou de Tourcoing. Et ce travail-là avance de façon itérative, de façon réflexive, sans être finalement décidé de manière un peu hors sol sur des diagnostics techniques, etc. Non, vous y allez, vous mettez les mains dans le cambouis. En mettant les mains dans le cambouis, c'est très original, c'est très très innovant, et donc ça fabrique de la communication, ça fabrique du buzz, on parle de vous, ça donne de la fierté, du courage et de l'envie aux habitants, aux acteurs locaux, au territoire lui-même, et vous avancez comme ça en marchant.
Dans la commune de La Grolée, on l'aura peut-être compris, beaucoup de dynamiques et des initiatives reposent sur les épaules du maire. Mais le projet de la friche nécessite cette fois-ci d'élargir à d'autres acteurs la gouvernance du projet. Ici, on ne propose pas une gouvernance prescriptive telle qu'on peut se l'imaginer sur un organigramme. Les localos proposent au contraire une gouvernance itérative qui se construit et se redéfinit en même temps que le projet évolue. Elle permet d'inclure plus de monde et de ne pas se limiter aux acteurs institutionnels habituels en acceptant d'y recevoir de nouveaux projets en fonction des évolutions. Comme l'a dit Yassir précédemment, c'est un projet réflexif qui s'étudie en même temps qu'il se construit. En espérant que cet épisode vous aura plu et donné envie de réfléchir à des projets de friche sur d'autres territoires, on souhaite, de notre côté, pouvoir suivre l'évolution de ce beau projet, et peut-être retournerons-nous à La Grolée pour vous tenir informés des suites. Un grand merci à toutes celles et ceux qui nous suivent et qui nous ont soutenus pendant notre campagne de financement participatif. Ce fut un vrai succès. Mille merci déjà à Christine Lude,
Sylvie Léméré,
Anna Hassenberg,
Marie Cohuet,
Emeline Granchet,
Sylvain Brunet,
Ilissi Pirois,
Sophie Odigier,
Martine Santos,
Claire Perrard. On n'a pas mis tout le monde car la liste est longue, mais pas d'inquiétude, on continue la série dans le prochain épisode. À cette occasion, nous serons dans le Bois Chaud, dans l'Indre, et on parlera d'adaptation de l'agriculture au changement climatique, dans une région dominée par l'élevage. En attendant, portez-vous bien.